Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quelques jours, le 26 mars, l'April fera son assemblée générale. Une AG importante car elle marquera le 25e anniversaire de l'association, enregistrée à la préfecture de Bobigny le 20 novembre 1996. Nous vous proposons à cette occasion une émission spéciale au cœur de l'April et de Libre à vous, pour que vous puissiez mieux faire connaissance avec celles et ceux qui font vivre l'association et l'émission. Ce sera donc le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » sur le thème du vote électronique, et la chronique « Jouons collectif » au sein de l'April de Vincent Calame. Voilà donc le programme de l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 mars, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Isabella Vanni. Salut Isa.
Salut Étienne, bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors, nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, lue par Laure-Élise Deniel. Aujourd'hui, sur le thème du vote électronique, une chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes, sur Radio Cause Commune, la voix des possibles.
En période électorale, il semble opportun de lire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, de relire trois transcriptions qui traitent du vote électronique. Le vote électronique, en quoi le logiciel libre n'est pas la solution, est une conférence proposée en novembre 2011 par Benoît Cibot, qui a été président de l'April et a participé à la rédaction du texte détaillant la position de l'association sur le sujet. Le vote électronique et ses enjeux était une table ronde menée par Jean-Marc Manac en novembre 2014 dans la fameuse émission 14h42. Et tout récemment, le 25 janvier, Madame Chantal Anguehard, directrice de recherche à l'Observatoire du vote, organisme qui publie des rapports et particulièrement après chaque élection politique en France depuis 2007, a été reçue dans l'édition 129 de l'émission Libre à vous. Elle s'est entretenue avec Étienne Gonu et François Poulain, trésorier de l'April et membre de la société CLIS21. Vous trouverez tous les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavoue.org. Voter est un acte qu'il nous est demandé d'accomplir dès le collège, voire dès l'école élémentaire. Pour élire le représentant de la classe, pour faire des choix collectifs. Quoi de plus rapide que voter? Les étudiants votent, les adultes votent aux élections institutionnelles, européennes, législatives, régionales, municipales, présidentielles, sans oublier les élections professionnelles, les élections au sein d'une association et les référendums. Voter est donc un acte fréquent. Les divers modes classiques de scrutin sont rappelés, la main levée, le vote par courrier postal et le vote avec bulletin papier. Deux types de scrutin sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique. Le vote par ordinateur, installé dans un bureau de vote, et les scrutins par Internet via un navigateur. Organiser un vote n'est pas une mince affaire. Tout doit être prêt à temps. Se posent des questions de coût, mais aussi tous les problèmes intrinsèques liés à la diversité de la population qui doit voter. Les intervenants s'accordent pour affirmer que la tentation de fraude est toujours présente, même dans les associations du libre, que des erreurs sont possibles à différents niveaux. Une codification pour encadrer les opérations classiques de vote a été mise au point au cours des années. En 2014, le bureau politique de l'UMP, renommé ensuite Les Républicains, décide de passer au vote par Internet, présenté comme une arme contre la triche, afin d'élire son président. Dans l'émission 14h42, Anne Levade, présidente de la Haute Autorité de l'UMP en charge du contrôle de ce vote, détaille la façon dont il a été organisé et les déboires auxquels il a fallu faire face. Une attaque par déni de service, d'innombrables connexions en très peu de temps rendant les serveurs inaccessibles, les problèmes de code permettant aux adhérents d'être identifiés, sans oublier les failles de sécurité dont un expert affirme a posteriori qu'elles n'ont pas été exploitées. Laissons les auditeurs et auditrices découvrir les difficultés en cascade que les organisateurs de son vote ont dû affronter et qui sont exposées de façon sincère dans l'émission. Roberto Di Cosmo, présent à cette table ronde de même que François Poulain le 25 janvier de cette année, rappelle que sans aucune formation, dans le cas de bulletin papier, quiconque présent dans un bureau de vote, même un enfant, en suivant ce qui se passe autour de l'urne transparente, est capable de comprendre et de se rendre compte que les bulletins qui sont comptés le soir, lors du dépouillement, sont exactement les mêmes que ceux qui ont été mis en place par les électeurs. Sont rappelées les caractéristiques d'un vote démocratique. Liberté de vote, secret du vote, donc sincérité, anonymat, acceptabilité du résultat et de sa légitimité, et la transparence, qui doivent être respectées et traduites techniquement dans le cas du vote électronique. Roberto Di Cosmo note que, dans l'histoire de l'évolution technologique, les personnes qui poussent à l'utilisation d'une nouvelle technologie sont celles qui la développent, alors que là, ce sont les professionnels de l'informatique, ceux qui connaissent, qui freinent. Et pourquoi freinent-ils ? Les explications de Madame Anguard sont éclairantes. D'abord, affirme-t-elle, il n'y a pas d'urne. Il y a la représentation électronique d'une urne, et il est impossible de savoir si celle-ci est vide au départ, puisque, dit-elle, la mémoire d'un ordinateur, c'est toujours plein. Ensuite, de façon très imagée, elle décrit ce qui se passe. La personne fait un geste, par exemple, appuie sur un bouton. Ce geste donne une petite impulsion électrique qui est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique est transformé à plusieurs reprises, et à la fin, les résultats électoraux sont proclamés. Aucune de ces transformations n'est observable, il est impossible d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a aucune transparence. Son ton est ironique. Comment croire les affirmations d'experts qui ne voient rien ? Leur rôle est symbolique. Il y a eu transposition de ce qui se fait pour le vote papier, sauf qu'en informatique, on parle de machines, de logiciels, de codes sources. Les bugs sont intrinsèques, donc partout, les virus s'infiltrent, une grande opacité, une boîte noire. De plus, quand on agit à distance, n'y a-t-il pas finalement une sorte d'infantilisation des citoyens et des citoyennes qui sont alors un peu dépossédés de cet acte politique de décision collective ? Le vote électronique invisibilise un certain nombre d'atteintes possibles à l'anonymat, au secret du vote, à la sincérité des élections. Quels seraient les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou par Internet ? Les avantages du logiciel libre sont rappelés. L'accès au code source, qui amène transparence et donc plus de confiance. La revue par les pairs, la correction rapide des bugs, amélioration de la sécurité, la mutualisation du développement du même logiciel, donc indépendance des vendeurs. Cependant, le logiciel libre ne rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. La dématérialisation est toujours là. Les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, que ce soit libre ou pas n'y change rien. Avoir du logiciel libre, et même du matériel ouvert, n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Les outils de vote peuvent s'avérer intéressants, et avoir du sens dans certains cas. Par exemple, pour les Français de l'étranger, pour les membres d'une association. François Poulain développe l'exemple de l'April. Voter en ligne permet aux membres, qui sont maintenant répartis sur quasiment tous les continents, de s'exprimer. La société CLIS21 a donc développé le logiciel J'ai voté. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ses services quelles sont les limites d'un tel vote, que les garanties sont moindres et donc une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté ainsi que les bases sur lesquelles déléguer la confiance. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ses services quelles sont les limites d'un tel vote. Et que les garanties sont moindres, donc qu'une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté, ainsi que les bases sur lesquelles déléguer sa confiance. Quand l'enjeu est fort, pour des élections d'envergure comme celle de député ou du président, ce genre d'outil n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable, voire inimaginable. Dans les autres cas, on pourra envisager le vote électronique, certes utile et pratique, en fonction des contraintes et des moyens du moment. Toute la difficulté réside dans le fait d'évaluer l'enjeu. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette thématique. Il faut expliquer aux citoyens la problématique avec tous les arguments et, suite à débat, leur demander ce à quoi ils acceptent de renoncer et donc quelles solutions mettre en place. C'est l'appropriation par chacun et chacune, par notre personnel législatif, de tous les enjeux qui gravitent autour du vote et du vote électronique qui nous fera progresser collectivement.
Nous venons d'écouter les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique rédigée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Deniel. Je précise que le logiciel J'ai voté, qui a été mentionné pendant la chronique, qui a donc été développé par CLIS21, une entreprise d'édition et de développement de logiciels libres. Donc J'ai voté est un logiciel libre qui est justement utilisé pour le vote en ligne par les adhérents de l'April pour l'AG à venir, comme je vous le disais, samedi prochain. Donc la chronique a été lue par Laure-Élise Deniel, qui est donc une des bénévoles de l'équipe Libre à vous, et elle prête depuis janvier sa voix aux chroniques de Marie-Odile. Et avant cela, elle avait déjà enregistré pour nous de super jingles, notamment pour nous dire comment participer à l'émission. Eh bien, Laure-Élise sera notre première invitée pour cette spéciale au cœur de l'April et de Libre à vous. Mais avant cela, je vous propose de faire une pause musicale. Alors, dans le cadre de cette émission spéciale, j'ai voulu partager quelques-uns de mes coups de cœur musicaux parmi les musiques libres que nous avons déjà diffusées. Pour ouvrir le bal, je vous propose d'écouter une des premières artistes que nous avons diffusées dans Libre à vous, plus précisément dans notre 11e édition en janvier 2019, ça remonte. Une artiste de hip-hop américaine dont les textes très politiques et la prose percutante m'ont tout de suite plu. Je vous propose donc d'écouter Age of Feminine par Kelly Mays. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. It's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going through? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going through? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second toke. He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, snorting up that coke? That's conscious on your side, do you feel her vote? And we don't want to eat caged animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls? Are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder. Stop up in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that internal doubter. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going through? Come on ladies, it's time to stand up. Take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gon' do? Na koi majuna bani, kaam karvayenge. Apne kaam mein abhi se kuch ban jayenge. Na koi majuna bani, kaam karvayenge. Apne kaam mein abhi se kuch ban jayenge. Choices, take over or watch the babies die. Polluted air, gun blast, see the way they cry. You been muted, lick a shot, so I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding deep. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You been wasting my time, assuming that we free. But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk, he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with azole infect. I'm about to defect. Until then, I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gon' do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gon' do? Love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend. Breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread the positive vibe. One up as the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside. But when the women gather, the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, let's be real. See the beauty inside, you've been duped, break the seal. Holy prophecy, no Saddam is from the sea. It's our duty to return the mother.
mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gone through? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gone through? And all my ladies in the hills, and all my ladies in the east, we about to take over this beat. And all my ladies in the west, and all my ladies in the east, we about to take over this beat.
Nous venons d'écouter Age of Feminine par Kelly Mays, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. J'espère que comme moi, vous êtes remontés à bloc après ce super morceau.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal au cœur de l'April et de Libre à vous, où j'aurai le plaisir d'échanger avec ma collègue Isabelle Avani, qui en plus de faire la régie aujourd'hui, nous présentera un aperçu de ce qu'elle fait à l'April pour faire avancer la cause du logiciel libre. Quel talent! Nous en apprendrons plus sur Vincent Calam, qui vient de rentrer en studio et que j'invite à s'installer confortablement avec nous. Je vous proposerai ensuite un aperçu, des actions institutionnelles de l'April, plus spécifiquement notre action sur une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Mais tout d'abord, tout comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Laure-Élise Deniel, qui est notamment la voix derrière les jingles de Libre à vous. Bonjour Laure-Élise, est-ce que tu es avec nous ?
Bonjour, je suis là.
Parfait. Alors déjà, je me permets de transmettre les bonjours de Marie-Odile, qui est connectée sur le salon web de l'émission Libre à vous, sur le website de la radio. D'ailleurs, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous y rejoindre dès à présent. Le lien du webchat est sur causecommune.fm. Alors bonjour Laure-Élise, je vais commencer par une question très classique. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien bonjour, bonjour à Marie-Odile évidemment. Je m'appelle Laure-Élise et je suis comédienne. J'ai suivi initialement une formation d'ingénieur en bâtiment et en 2018, j'ai fait un virage à 180 degrés et je me suis inscrite au cours Florent que j'ai terminé en 2020 et j'ai également suivi une formation de doublage. Voilà. Depuis, j'ai fondé un collectif avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce parcours, le collectif Neptune, et puis on est en train de monter nos premiers projets.
Super, bah tu pourras nous en dire plus. Alors bah, du coup, on a compris que ton métier, ton talent et tourne autour de ta voix. Et donc du coup, c'est comment... Donc c'est pour ça que tu es venu prêter ta voix, c'est le talent que tu as pu apporter à l'équipe du Bravo. Comment tu es arrivé justement dans notre équipe ?
Alors j'ai rejoint votre superbe équipe grâce à Elodie, ma sœur, qui participe au montage des podcasts de l'émission. En fait, en discutant avec elle, un jour, je lui ai demandé si jamais l'équipe cherchait quelqu'un pour faire des lectures, des jingles, ou enfin si jamais une voix pouvait servir à quoi que ce soit pour l'émission. Et elle a fait passer le message, et puis c'est Frédéric Couchet qui m'a contactée. Voilà comment je suis arrivée jusqu'à vous. je connaissais pas du tout l'April au départ. Et voilà, on a beaucoup échangé sur... l'identité de l'émission, l'ambiance. J'ai fait plusieurs propositions, notamment sur les jingles, pour jouer sur les intentions, les tonalités, pour trouver ce qui correspondait vraiment à l'identité de l'émission.
Oui, et j'ai trouvé ça... Du coup, j'ai aussi suivi évidemment ton arrivée, puis les questions que tu nous posais. C'est vrai que nous, Libre à vous, il reste une émission qui est quand même amateur. Hein. Alors, il y a une part des professionnels de l'April, mais dont ce n'est pas le métier qui s'occupe de l'animation, etc. Et pour nous, c'est important aussi de rendre quand même une émission aussi agréable à écouter que possible, aussi professionnelle, et avoir une identité vocale fait partie de tout ça. Et c'est intéressant justement de voir comment tu t'y prenais pour travailler, parce que pendant que tu nous posais ces questions sur l'identité, sur les émotions... Et c'est intéressant comment justement tu pouvais, de voir ta méthode de travail, ton approche de la chose, qui pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Alors du coup, voilà, comment tu t'y prends pour apprécier, pour construire cette identité, identité vocale, je sais pas comment. Donc tu nous pourrais-tu nous demander
Sur les jingles, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de ce qu'on voulait faire transparaître. En fait, c'est vrai que avec juste une voix, on l'entend notamment si on prête un peu l'oreille aux publicités de la radio. En fonction du produit, il n'y aura pas la même intention derrière. Et c'était ça qu'il fallait réussir à faire ressortir pour Libre à vous. Il y avait cette idée d'un peu d'émission sérieuse, mais avec un peu un côté radio pirate, un peu rebelle. Donc il fallait réussir à allier les deux. On a tâtonné, j'ai fait plusieurs sessions d'enregistrement en fonction des phrases, des phrases des jingles. Et puis j'ai réussi et Fred a réussi aussi à m'indiquer un peu plus. À m'orienter, m'aiguiller un peu plus pour réussir à trouver ce qu'il vous fallait.
Oui, ils ont vraiment c'est un vrai travail d'aller-retour aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, nous on proposait les textes qu'on avait besoin, on pouvait t'aiguiller, c'était à toi aussi de chercher en nous les bonnes indications pour pouvoir proposer finalement un résultat. Et est-ce que le fait que ce soit des capsules courtes comme ça le rend l'exercice plus facile, plus difficile ?
Le travail de la voix, c'est vrai que c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est pas facile ni difficile, mais c'est vrai que vu que c'est court, il faut vraiment que l'intention, l'intensité soit à 200% par rapport à une conversation normale. Il faut vraiment investir beaucoup plus la phrase pour que l'énergie ressorte. Après, c'est un exercice que j'aime particulièrement. Donc c'était vraiment un plaisir de vous aider à créer ces petits jingles.
En tout cas, nous, on est très heureux de cette identité vocale que tu nous as proposée, qui étoffe vraiment, je trouve, notre émission.
Merci beaucoup.
Et c'est un exercice que tu fais, du coup, professionnellement aussi, ou avec d'autres, que tu as eu l'occasion de faire avec d'autres associations ou...
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Pour le moment, ça reste vraiment restreint à l'April. Après, si des auditeurs nous écoutent, n'hésite pas à me contacter.
Alors du coup, comme je disais, bon, là, on a pu en plus entendre en direct un enregistrement. Tu, depuis janvier, tu prêtes ta voix donc, aux chroniques de Marie-Odile, pour qui justement elle prenait plus de plaisir à l'écriture des chroniques plutôt qu'à leur lecture en direct. Du coup, finalement, vous vous êtes bien trouvés. Du coup, je pense que c'est un exercice qui est assez différent de lire un texte sur entre 5 et 10 minutes que par rapport à un jingle qui doit contenir une émotion très spécifique, où tu abordes ça de la même manière.
Alors j'aborde ça pas tout à fait de la même manière, mais déjà parce que j'apprends beaucoup des chroniques de Marie-Odile. Ça m'intéresse énormément de lire les transcriptions et de pouvoir partager ce qu'il en ressort via cette chronique. J'aborde ça plus comme un reportage en fait, pour partager du savoir et partager une réflexion. Donc pour la lire. C'est plutôt différentes étapes. J'ai commencé par lire la transcription qui se prête à la chronique pour bien comprendre les enjeux et les idées que Marie-Odile a voulu mettre en avant et faire ressortir, les concepts qui sont abordés, parce que moi je suis assez novice en ce qui concerne l'informatique et l'informatique libre, donc je réfléchis parfois pas mal pour être bien sûre de l'intention et du sens qui sont donnés dans son texte. Et après, pour la lecture en elle-même et l'enregistrement, c'est là que je me sers de mon expérience de comédienne, un peu de c'est à mon tour de transmettre, de me réapproprier ce message et ses valeurs et de transmettre ces informations à votre audience.
Et ce que je trouve intéressant là dans ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, tu te contentes pas de recevoir le texte et de le lire et puis c'est fini. On entend que c'est du travail aussi, parce que tu prends ce temps pour t'approprier les concepts, pour comprendre ce que tu vas lire. Et je trouve que ça se ressent, puisqu'on n'a pas simplement l'impression que tu lis un texte quelconque. Et c'est intéressant ça.
Mais c'est vrai que de manière générale, pour un comédien, si on comprend pas ce qu'on dit, on va pas pouvoir le jouer. Il faut se le réapproprier, il faut le comprendre, il faut donner un sens et un enjeu au message qu'on transmet, quel qu'il soit. Et bon, là, en l'occurrence, ça reste quand même très accessible et c'est quand même enrichissant de pouvoir se dire qu'on apprend quelque chose en lisant un texte que je ne serais pas allée chercher de moi-même non plus. Et du coup, de pouvoir partager un nouveau savoir, une nouvelle réflexion, alimenter aussi sa réflexion personnelle. C'est quelque chose qui enrichit la transcription en elle-même, en fait.
Super. Et je trouve que tu me dois sur un aspect important des chroniques de Marie-Odile. Moi, je trouve qu'elle a une excellente capacité de synthèse et de pédagogie pour rendre effectivement accessible des concepts compliqués et complexes parfois. Alors Fred, qui est justement avec nous sur le salon web de l'émission, souhaite te poser une question. Il te demande si les expériences avec Libre à vous te donnent envie de faire de la radio sous une forme ou sous une autre.
Je me suis pas posé la question de faire de la radio, mais ce serait pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, les chroniques de Marie-Odile, je les pré-enregistre, comme ça a été précisé. La raison au départ, c'est que normalement, je ne suis pas disponible à l'heure à laquelle est diffusée l'émission. Donc c'était vraiment plus une question pratique et d'organisation, et ça demandait un peu d'anticipation. Après, faire de la radio, pourquoi pas, ça se réfléchit, je suis ouverte à toutes les propositions.
C'était pas une question piège.
non, pas du tout.
Alors je vois que notre temps d'échange va bientôt arriver à sa fin, mais alors tu nous as parlé, parce que tu nous parlais de toi, tu nous parlais notamment d'un collectif que tu avais initié, le collectif Neptune. Est-ce que tu veux nous en dire quand même quelques mots, et si tu as alors des actualités autour de ce collectif à partager, n'hésite pas à le faire.
Alors, le collectif Neptune, oui, c'est un collectif de comédiens qui a vocation à monter des créations théâtrales. Aujourd'hui, on est un peu moins d'une dizaine. On a plusieurs projets en cours. Voilà, on a une page sur un site non libre. On partage des informations. Voilà, si vous tapez collectif Neptune, vous devriez nous trouver. On a notamment un spectacle qui se monte en collaboration avec une autre association. Voilà, qui s'appelle Une lettre, un sourire, qui a vocation à envoyer des lettres aux personnes âgées dans les EHPAD. Voilà, on a plusieurs petits projets qui se montent et qui prennent chacun leur temps, et on mettra toutes les informations sur notre page, voilà, pour ceux qui veulent nous suivre.
Parfait, et on mettra nous le lien vers ce collectif, le collectif Neptune, sur la page de l'émission. Avant de te libérer, une dernière question. Est-ce que tu connaissais le logiciel Libre avant de participer, et depuis que tu participes au projet Libre à vous, est-ce que tu as développé un peu tes connaissances? Du coup, oui, un peu, tu nous l'as dit, sur le logiciel Libre.
J'en connaissais quelques-uns, notamment grâce à Elodie qui m'a mis en contact avec l'April, la Panoplie Frama par exemple, ou OpenOffice. Et c'est vrai que depuis, j'essaye de faire un peu plus attention dans ma consommation de logiciels. Notamment l'utilisation d'Audacity pour les enregistrements. Voilà, de manière générale, j'essaye de faire un peu plus attention, mais c'est pas toujours facile.
Non, et puis on croit dur à la démarche des petits pas, et c'est un pas à la fois, et l'important c'est d'ouvrir aussi son regard sur ces enjeux. En tout cas, merci beaucoup Laure-Élise d'avoir pris ce temps d'échange avec nous, et puis globalement pour ta participation à ce beau projet qui est Libre à vous. Je te souhaite une excellente fin de journée, et puis au mois prochain pour une prochaine lecture de chronique du coup.
Avec plaisir, à bientôt.
Salut Laure-Élise. Alors, sans trop de transition, dans le cadre de cette émission spéciale au cœur de l'April, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'évoquer un exemple d'action institutionnelle que nous menons. Notamment car, en plus d'être un des animateurs et régisseurs de Libre à vous, j'ai l'honneur d'être chargé de mission affaires publiques pour l'April depuis 2016. Alors, pour commencer, précisons peut-être ce qu'on entend par action institutionnelle ou affaires publiques. Dans son histoire, l'April s'est rapidement rendu compte qu'il ne pouvait suffire de faire la seule promotion du logiciel libre auprès du grand public. Cela est certes indispensable, hein, et ça l'est toujours, mais il y a malheureusement des intérêts contraires à ceux du logiciel libre, des rapports de force, parfois même, voire trop souvent, défavorables aux libertés informatiques. Et c'est donc le sens du plaidoyer politique que cherche à développer l'April, agir auprès des pouvoirs publics pour un contexte juridique, économique, politique, favorable au développement du logiciel libre. Et bien sûr, de le faire en cohérence avec l'éthique que nous défendons, en transparence et sur des bases politiques claires et solidement argumentées. Non pas pour défendre des intérêts particuliers, mais pour défendre ce que nous considérons être l'intérêt général. Nous menons déjà ces actions dans l'optique de créer des rapports de force plus favorables au logiciel libre. L'exemple le plus marquant étant notre revendication pour une véritable priorité au logiciel libre dans les administrations publiques. Il paraît d'ailleurs inconcevable qu'en réalité que l'impôt finance du logiciel privateur et non pas un commun informationnel comme le logiciel libre au bénéfice de toutes et tous. et nous agissons aussi parfois pour lutter contre des situations qui menacent les libertés informatiques. Il peut s'agir d'atteintes directes, comme la situation d'addiction totale du ministère des Armées à Microsoft, qui renouvelle sans cesse un contrat open bar avec l'entreprise américaine, alimentant ainsi sans cesse sa propre dépendance. Une situation que nous dénonçons depuis plusieurs années et sur laquelle nous appelons à faire la lumière. Il peut aussi s'agir d'atteintes plus indirectes, où l'objet initial d'une proposition de loi, par exemple, ne concernait pas les libertés informatiques, mais qui, par effet de bord, fait peser une menace sur ces libertés. Et c'était le cas dans un dossier récent de l'April, où nous avons agi autour d'une proposition de loi qui aurait pu, par effet de bord, interdire la vente d'ordinateurs dits nus, c'est-à-dire vendus sans système d'exploitation. Au dernier trimestre 2021, le député de la majorité, Bruno Studer, dépose une proposition de loi dont l'objet, une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Elle sera d'abord débattue à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat. Plus précisément, elle doit d'abord être débattue par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, qui peut amender le texte, puis cette version du texte éventuellement modifiée est débattue en séance publique avec potentiellement l'ensemble des députés qui peuvent à leur tour amender le texte. Ce sera ensuite au tour du Sénat, dans cette même logique de travaux en commission puis en plénière, de discuter du texte issu des travaux de l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle communément la navette parlementaire. Cette proposition de loi, donc, était construite autour d'une proposition d'un article central, qui avait pour objet d'imposer aux fabricants d'équipements informatiques la préinstallation d'un logiciel de contrôle parental que la personne qui acquiert l'équipement pourra activer ou non lors de la mise en service de l'appareil. Et c'est là où la question, où l'enjeu surgit. Serait-il encore possible de vendre des ordinateurs sans système d'exploitation ? Puisqu'il est de fait impossible de préinstaller un logiciel de contrôle parental sur une machine qui n'aurait pas de système d'exploitation. Bon, soyons précis. La proposition de loi visait spécifiquement les équipements terminaux permettant l'accès à des services de communication au public en ligne. La question de savoir si des ordinateurs nus sont couverts par cette définition se pose. En tout cas, une chose est sûre, le doute est là. Et l'incertitude n'est jamais une bonne chose en droit. Les acteurs économiques, notamment, privilégiant souvent les voies de moindre risque. Particulièrement en plus dans une situation où le marché des équipements vendus sans système d'exploitation est déjà assez fragile et même mis à mal, et notamment par les pratiques de vente forcée. Et donc l'April, pour qui il n'était pas question de discuter du fond de la proposition de loi, ce n'est vraiment pas l'objet de l'association, s'est mobilisée pour signaler que dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi pourrait laisser craindre des atteintes aux libertés informatiques des consommateurs et des consommatrices. Et une réalité de l'action institutionnelle, c'est que parfois, on ne remarque pas immédiatement une menace pour le logiciel libre. Et donc ce n'est qu'en amont des débats en séance publique de l'Assemblée nationale, donc une fois que les travaux en commission étaient déjà passés, que nous avons envoyé nos premières propositions d'amendement à des députés pour exclure explicitement les équipements vendus sans système d'exploitation du périmètre de la loi. Et encore là, peut-être trop tardivement, aucune de nos propositions n'a été reprise et donc débattue en hémicycle. Le tout, et ça c'est une autre partie de la réalité de nos travaux, c'est que tout ça se passait toute fin décembre 2021 donc, et bah de fait, nos propres disponibilités étaient peut-être déjà moindres. Alors le texte arrive donc au Sénat, toujours avec ce risque pour les libertés informatiques. Nous contactons les sénateurs et sénatrices, membres de la commission en charge d'étudier la proposition de loi, et notamment la rapporteure Sylviane Noël, en charge de conduire les travaux du Sénat sur ce texte. Et à nouveau, là, malheureusement, malgré nos efforts, nos amendements ne seront pas retenus, donc ils ne seront toujours pas débattus. La lecture en séance publique, qui est donc l'étape suivante, sera donc notre dernière occasion d'éviter ce dommage collatéral pour la vente des ordinateurs nus ou vendus sans système d'exploitation. Alors précisons ici que si bien sûr nous agissons pour que le texte soit modifié, le seul fait de voir nos amendements repris et déposés est important. C'est important pour que la question soit justement débattue et qu'il puisse être à minima dit à cette occasion, dit par la représentation là au Sénat, qu'effectivement les équipements nus ne sont pas concernés par la future loi. C'est ce qu'on appelle l'intention du législateur, chose sur laquelle un juge pourra s'appuyer si jamais un litige devait survenir dans le futur. Donc là, à ce moment-là, je contacte vraiment tous les sénateurs et sénatrices que nous savons sensibles aux enjeux au sujet des libertés informatiques, ainsi que les secrétariats des différents groupes politiques qui constituent le Sénat. Et puis bien sûr, la rapporteure, pour justement nous assurer que ce débat ait lieu, et que notre crainte soit entendue. plusieurs parlementaires décident de reprendre nos propositions d'amendement, la rapporteure aussi, ou presque, puisque sa proposition n'exclut pas l'ensemble des équipements vendus sans système d'exploitation, mais seulement ceux à destination des professionnels. Et ce sera cet amendement qui sera adopté. Alors là, malheureusement, à ce stade, le doute initial se voit en fait renforcé. Parce que si le marché professionnel est spécifiquement exclu, le marché professionnel pour de la vente des équipements vendus sans système d'exploitation, ça veut dire que la vente des machines nues au grand public est, lui, quant à lui, bien concerné par la proposition de loi. Alors là, ultime étape, il ne nous reste plus que la commission mixte paritaire pour agir. Une commission mixte paritaire, en gros, rassemble un nombre égal de députés et de membres du Sénat pour trouver un texte compromis entre les versions des deux chambres. Alors là, nous exprimons à nouveau nos très fortes craintes, particulièrement auprès des rapporteurs, Sylviane Noël et de l'Assemblée, Bruno Studer. Bruno Studer qui plus est, était celui qui avait déposé la proposition de loi, et donc son nom allait être attaché à cette proposition de loi, une fois loi. Et là, nous insistons donc sur l'importance de rectifier le tir. C'est l'ensemble des équipements nus qui doivent être exclus du périmètre de la loi. Et fort heureusement, nous serons entendus. La vente d'équipements sans système d'exploitation est bien hors de danger et explicitement sortie du périmètre. Et donc voilà un exemple d'une action relativement discrète de l'April, puisque au final, il n'y a aucune modification du fond du droit actuel concernant le logiciel libre une fois la loi votée, mais donc néanmoins importante pour nos libertés à toutes et tous. Et puis je profite de cette petite présentation pour remercier en particulier Bruno Studer, qui effectivement s'est montré tout à fait à l'écoute de nos craintes. Après ce long monologue, qui j'espère quand même vous aura paru intéressant, je pense que nous avons tous et toutes mérité une petite pause musicale. Ah, alors oui, Isa donc a passé en tapis. Voilà, donc c'est un autre de mes coups de cœur, Arcane par Cloud Kicker, un morceau qui me semble qui peut se classer dans du math rock. Je vais vous laisser l'écouter, on en parlera juste après sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Alors comme je vous le disais, c'est un de mes coups de cœur des musiques que nous avons diffusées dans Libre à vous. Alors un morceau qui me semble se classer comme du mat rock, dont j'adore vraiment la construction rythmique. Alors ça démarre au quart de tour et puis ça nous embarque pour 3 minutes sans nous laisser le temps de nous poser en enchaînant les séquences rythmiques. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et que comme moi le grain de folie de ce morceau vous aura emporté.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre spécial au cœur de l'April et de Libre à vous avec celle que tous les membres de l'April qui ont mis les pieds dans un stand de l'association connaissent. J'ai nommé ma collègue Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Salut Isa.
Salut, bonjour à tout le monde.
Alors je rappelle que tu t'occupes en ce moment même de la régie, donc merci donc de te prêter à cet exercice pas forcément évident de dédoublement de tâches.
Tout peut arriver, mais on va voir.
On verra, voilà. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous dire plus précisément en quoi consiste ton poste donc de coordinatrice vie associative et responsable projet ?
Voilà, donc tu viens de nommer ma fonction. Donc je m'occupe de plusieurs choses. Il y a la partie gestion des membres qui est très importante pour nous parce qu'on a voilà, c'est notre force et on a près de 3000 membres et je m'occupe de cette partie avec ma collègue Elsa. Puis il y a le grand axe important, c'est aussi l'axe sensibilisation qui se décline de différentes façons. Je suis animatrice du groupe de travail sensibilisation qui voit la participation de toute personne intéressée. Donc il peut y avoir les membres de l'équipe salariée qui réalisent des documents, il peut y avoir des membres April qui participent aux réunions qu'on organise, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas membres mais qui sont intéressées à promouvoir le logiciel libre avec nous et qui donc participent ponctuellement à des réunions. Ça se décline aussi la sensibilisation, ça se fait aussi sur les événements. Donc on essaie de participer à un maximum d'événements plus spécifiquement libristes, comme ça peut être les journées du logiciel libre, qui arrivent bientôt le week-end de 2 et 3 avril à Lyon. Donc on sera présent avec un stand et avec une équipe magique de bénévoles. Ça se décline avec la production de documents de sensibilisation, de ressources explicatives des principes, des enjeux du logiciel libre. Ça peut être des flyers, ça peut être l'expo libre, une collection de panneaux qui explique justement la philosophie du logiciel libre. Mais ça peut être aussi des goodies, voilà, comme des stickers, des t-shirts qui peuvent lancer des messages et donner envie aux personnes d'en savoir plus. Et ça peut être aussi une initiative comme le Libre en Fête, sur lequel peut-être tu avais envie de me poser des questions aussi.
Bah, quelle présentation complète et efficace. Alors justement, puisque tu nous parles de Libre en Fête, ça c'est un événement important qui a lieu en ce moment même. Je pense qu'on pourrait même parler d'un méta-événement. Et je crois que c'est la 25e occurrence en plus, donc une année importante, un millésime important. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus ? C'est quoi le Libre en Fête ? En quoi ça consiste ?
Alors, la millésime, juste pour donner l'information correcte, est la 21e.
Mais avec les 25 ans de l'April. Ouais.
Elle est très belle aussi, la 21e. Et donc, c'est une initiative nationale coordonnée par l'April qui a lieu autour du 20 mars, donc autour de l'équinoxe de printemps, qui a lieu le 20 mars, hein, non plus le 21 depuis quelques années, et qui consiste en gros à proposer des événements de découverte du logiciel libre, donc des événements qui sont destinés notamment au grand public qui connaît pas ou qui connaît peu les logiciels libres, qui ont envie d'en savoir plus. En fait, l'April n'organise pas d'événements, on n'aurait pas les ressources pour le faire. En revanche, en France, il y a énormément d'organisations locales qui promeuvent le logiciel libre. Et donc, on s'adresse à ces organisations qui peuvent être des groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, autrement appelés GUL. Mais ça peut être aussi des associations, ça peut être des centres sociaux, sociaux et culturels, ça peut être des médiathèques, des tiers-lieux. En fait, n'importe quelle organisation finalement qui a à cœur ces enjeux peut bien sûr participer à cette initiative, proposer un ou plusieurs événements de découverte des logiciels libres ou de la culture libre en général. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, par exemple, une soirée où apprendre à mieux sécuriser sa vie intime, hein, ses données personnelles. Donc, en fait, ça peut être ces cultures libres au sens large. Et après, l'April coordonne, c'est-à-dire que c'est nous qui lançons les appels pour participer à l'émission. On met à disposition un site web, on met à disposition des éléments de communication, et d'ailleurs je salue le superbe travail de notre membre et bénévole Antoine Bardelli, graphiste, qui a réalisé vraiment des super chouettes nouveaux éléments de communication pour le Libre en Fête de cette année. Et bien évidemment, on trouve aussi tous les événements sur le site, hein, pour les personnes qui veulent chercher un événement de découverte de logiciel libre près de chez elles. Et on utilise aussi l'agenda du libre, qui est un site hébergé par l'April, en fait, sous lequel on peut soumettre des événements autour du logiciel libre. Et c'est là, en fait, que ces événements sont référencés. Et après, grâce à notre équipe d'informaticiens, on arrive en étiquettant le libre en fait sous l'agenda libre. Bah, ça apparaît aussi sur le site de libre en fait. Donc, j'en profite pour remercier l'une des personnes qui gère la partie informatique site du Libre en Fête, Vincent, qui est là avec nous, ça tombe bien. Et donc, je le remercie en direct. Je parle beaucoup. Hein.
Bon, c'est ton temps de parole, c'est très bien. Et oui, je vais rejoindre tes remerciements, Antoine Barly. C'est vrai que le nouveau site, tout ce qu'il a fait autour de Libre en Fête, le nouveau site et l'image, est vraiment, c'est magnifique. Je vous invite vraiment.
C'est très joyeux.
Alors du coup, tu parlais des journées du logiciel libre. Ça s'inscrit du coup ça aussi dans le cadre... Dans le cadre du Libre en Fête ?
Je ne sais pas s'ils l'ont étiqueté dans le cadre du Libre en Fête. Normalement, ils le font.
Il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a absolument pas d'obligation. Ce n'est pas parce qu'on publie, on soumet un événement qui rentre dans les dates. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les dates de cette année, du 5 mars au dimanche 3 avril. Ce n'est pas parce qu'on soumet un événement dans cette période sous l'agenda des libres qu'automatiquement on rentre dans le Libre en Fête. Non, bien sûr, c'est un choix de la personne ou de l'organisation, donc c'est pas du tout grave, et on adore l'ALDIL, donc c'est le groupe, l'organisation qui organise les journées du logiciel libre, et on n'en veut pas s'ils n'ont pas mis l'étiquette libre en fait, c'est très bien quand même.
Alors du coup, est-ce que tu vas participer, toi, tu vas participer à deux conférences même aux journées du logiciel libre, il y aura un stand. Du coup, je vais te poser à toi une question, parce que ça fait depuis fin l'année dernière qu'on a pu refaire des stands en physique, après toute une période de confinement. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir à nouveau te retrouver sur des stands, dans des événements, de voir un peu aussi les camarades libristes
Alors, le premier événement auquel j'ai participé après beaucoup, beaucoup de temps, c'était l'Open Source Experience, donc un salon professionnel qui a eu lieu à Paris en novembre 2021. Et en fait, ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait des personnes qu'on ne voyait pas vraiment depuis longtemps. Les événements, c'est pour toucher le public, bien sûr, mais c'est aussi un grand moment de convivialité avec des organisations et surtout des personnes qu'on aime bien, avec lesquelles on participe à la promotion du logiciel libre. Donc c'est un plaisir, et en plus j'ai jamais participé encore aux journées du logiciel libre à Lyon, donc ça fait longtemps que je voulais y aller, et je suis ravie de participer à cette édition.
Bah, pour y être, moi, allé une ou deux fois, je sais plus, j'ai toujours, enfin, je trouve que c'est vraiment un super moment. On est vraiment entre des personnes convaincues par l'importance de défendre les libertés informatiques, et on est bien. Je trouve que c'est ce genre d'événement où on se sent bien. De toute façon, je redonnerai aussi en fin d'émission les détails, sur effectivement pour les différentes conférences qui peuvent intéresser, et bien sûr les liens seront sur l'agenda du libre.org que tu as déjà évoqué. Alors, tu as aussi parlé du coup d'une de tes activités, si ce n'est activités principales que tu as à l'April autour du groupe Sensibilisation. Donc, tu en as déjà un peu parlé. Alors, que fait ce groupe et quels sont vos projets actuels? Comment vous fonctionnez?
Oui, donc le groupe a déjà une liste de discussions. Donc, c'est très important. Si vous êtes intéressé à participer à la promotion du logiciel libre auprès du grand public, le plus simple, c'est de s'inscrire à la liste de discussion Sensibilisation. Donc, on mettra la référence sur la page de l'émission pour pouvoir vous abonner facilement. Il n'y a pas besoin d'être membre pour participer à cette liste. Après, on a une page wiki où on liste les projets sur lesquels on travaille ou les projets possibles, hein, les options possibles de projets. Et donc, dans ces dernières années, on a travaillé sur un jeu de plateau coopératif, le jeu du gnou, et sur la boussole du libre, qui est plutôt un document visant à orienter, comme les boussoles font, orienter les personnes vers des liens, vers des ressources fiables, à jour, accessibles, pour les aider en fait à obtenir des informations sur le logiciel libre, sur comment s'initier à le logiciel libre, sur comment trouver de l'aide. Et puis j'en profite pour dire qu'on a fait ces dernières années, on a aussi travaillé un quiz sur l'Expo Libre, c'est-à-dire une série de questions qui concernent les enjeux du logiciel libre, qui sont expliqués dans les panneaux. Et en fait, tout dernièrement, toujours notre graphiste bénévole Antoine Bardelli, merci encore à lui, il a réalisé une affichette en fait avec le quiz qu'on pourra mettre à disposition du public, notamment aux journées du logiciel libre. Donc le but, c'est de lancer un petit défi. Donc il faut voir ça comme un jeu, hein. Donc on lance un défi au grand public, et en fait ça, finalement, ça les poussera à lire encore plus attentivement les panneaux.
Parfait. Alors du coup, parce que tu nous as donc dit que n'importe qui, on n'est pas obligé d'être membre de l'April pour contribuer au groupe Sensibilisation. Est-ce que vous recherchez des compétences en particulier? J'imagine que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on souhaite contribuer au groupe Sensibilisation?
Donc, en fait, on organise aussi des réunions, notamment dans lesquelles on discute des projets en cours, des possibles projets qu'on peut commencer, qu'on peut démarrer. C'est aussi l'occasion de discuter entre nous, parce qu'en fait, si on a envie de sensibiliser autour de soi, c'est important aussi d'avoir les bonnes ressources. C'est important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde du libre et de l'informatique. Et donc, finalement, ça devient un moment aussi un peu comme un bar, hein. Si on se retrouve, on parle, on échange des informations, donc on apprend aussi plein de choses. La compétence vraiment importante, c'est de s'intéresser de ces sujets. Après, on fait beaucoup de travail, si vous voulez, d'élaboration, hein. Dernièrement, on a fait surtout, on a élaboré des quiz, on a élaboré des textes pour un jeu, on a recherché des liens et on les a présentés. Donc c'est de la recherche, je dirais, c'est de la rédaction, c'est de la relecture, justement parce que la forme est très importante. Il faut avoir toujours en tête qu'on a en face un public qui ne s'y connaît pas forcément. Donc il faut trouver la bonne formulation pour que ce soit le plus clair possible aussi. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on peut avoir aussi besoin. Par exemple, on est en train de réfléchir à des possibles goodies, des nouveaux goodies. Donc, par exemple, il y a un bénévole qui s'est chargé de poser des questions dans un Fab Lab qui a une brodeuse, par exemple, qui s'est chargé de faire des tests, de faire même une formation, pas forcément pour l'April, mais du coup, ça peut nous être utile. Donc, ça peut être aussi la recherche éventuellement de prestataires, de fournisseurs, de nouvelles idées. Donc, c'est très vaste.
Ok, si on a envie de s'engager, on peut venir proposer des choses.
Absolument.
On trouvera une manière de... Ok, alors peut-être pour finir, parce que là, notre temps arrive sur la fin. Concrètement, je crois que donc, vous vous retrouvez à peu près toutes les deux semaines.
Un
jeudi sur deux.
On a suspendu ce mois-ci parce qu'il y avait pas mal de choses côté April, mais la prochaine réunion est le 7 avril. Donc c'est un jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30.
D'accord. Et à distance, c'est-à-dire si vous passez sur un logiciel, je crois que vous passez par Mumble ou Jitsi.
On passe par Jitsi. Plus précisément, le Jitsi sauce April, le visio.chapril.
Voilà, donc un logiciel de visioconférence qui ne demande aucune compétence particulière pour être utilisé.
Un
navigateur web. Et d'ailleurs, je vais te féliciter parce qu'effectivement, avant, vous vous retrouviez, vous faisiez des réunions physiques. Et bah, comme pour toutes les assos, vous êtes pris, enfin voilà, il y a eu le confinement, et tu as su, je trouve admirablement, passer un petit peu cette épreuve et faire durer un peu les réunions que tu avais mises en place en utilisant l'outil Jitsi, et puis ça continue là du coup.
On s'adapte hein, en fonction des situations, et ça a permis à des personnes qui n'habitaient pas Paris de participer. Donc je suis très contente. Finalement, on a des nouvelles personnes qui participent. Donc il faut trouver le positif hein, dans toute chose.
Merci beaucoup, Isa. Alors, est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaitais partager ?
C'est tout, je crois.
Ok, super. Bah, avant de te laisser reprendre tranquillement la régie, est-ce que tu pourrais nous présenter la prochaine pause musicale, puisqu'il s'agit d'un de tes coups de cœur ?
Tout à fait, donc c'est un morceau qui a été publié par un groupe qui s'appelle Vienna Ditto. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un groupe qui publie sous licence de libre diffusion la plupart de ses albums. Donc libre diffusion, ça veut dire qu'on peut réutiliser la musique, mais il y a je crois une clause non commerciale. Mais en fait au tout début, ils avaient aussi publié sous licence libre un morceau. Il avait publié sur YouTube. Hein, désolé, je dois parler de YouTube, mais juste pour expliquer comment la licence libre peut aider à faire connaître un groupe. En fait, leur titre a été réutilisé par un YouTuber comme thème d'ouverture de ses vidéos. Et ensuite, un autre canal YouTube a fait une parodie de ce YouTuber hein, et de ses vidéos. Et bah, cette musique qui avait été écoutée au départ par quelques milliers seulement de personnes, bah il y a plus de 5 millions de personnes qui l'ont écouté grâce à la licence libre. Et donc les personnes aussi se sont intéressées à la musique qui était en ouverture. Ils ont commencé à demander des informations sur un groupe, etc. Comme quoi diffuser sous licence libre aide aussi à ça. Et le morceau qu'on va écouter aujourd'hui, bah en fait c'est un groupe qui fait une musique électronique, mais utilise aussi une guitare électrique. La voix féminine est plutôt jazzy hein, comme style. Par contre, le morceau qu'on écoutera aujourd'hui, c'est plutôt du pop. Hein. C'est très mélodique et ça montre bien comme juste une bonne mélodie de la guitare et une jolie voix peuvent faire un super morceau.
Parfait. On va écouter ça. On va faire une pause musicale donc. Et donc, nous allons faire une pause musicale. Après cela, nous retrouvons Vincent Calame pour la chronique Jouons Collectif au sein de l'April. Et donc, avant ça, nous allons écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, un excellent choix de musique. Je vous souhaite une belle journée à la côte de Cause Commune, la voix des possibles. The day is getting on. Market traders pack away. Been and gone. I listen for your footfall on the stairs. I'll never hear your voice. Call up to me again. And love is an addiction that makes beggars of us all. And I shall take whatever comes my way. Someday those leaves will fall. Écoutez Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, un magnifique morceau disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame que nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio. Salut Vincent.
Salut
Étienne. À toi. Salut Vincent.
Salut Étienne.
Là, ton micro était éteint.
Bon, c'est bon.
Et à toi la parole.
Oui, alors quand j'ai appris que l'émission d'aujourd'hui était centrée sur l'April, je me suis dit qu'il y avait matière à prendre le contre-pied de mes chroniques précédentes. Alors en effet, comme le présente la page qui leur sont consacrées sur le site Libre à vous, l'idée de départ de mes chroniques est de partager mon témoignage d'un informaticien « embarqué » entre guillemets au sein de groupes de néophytes, associations, mouvements, équipes en tout genre, où j'essaye de prêcher la bonne parole du libre. Aujourd'hui, à l'inverse, je vais évoquer mon action d'informaticien, de militant libriste, parmi mes homologues de l'April et d'autres mouvements du libre. Des personnes bien plus au fait des enjeux sociaux et politiques du libre et ou aussi bien plus calées que moi sur de nombreux aspects techniques.
Alors, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué ?
Eh bien, on commence d'abord par tomber de son piédestal. Quand vous êtes le seul à maîtriser l'informatique d'un collectif, vous êtes un peu le prêtre d'une mystérieuse religion antique. Tel l'Apiti, vous êtes l'initié seul capable de décrypter la parole de la divinité. La divinité étant ici l'ordinateur. Donc, le code informatique, d'ailleurs, ne serait-il pas le dernier avatar de ces langues liturgiques connues seulement d'une caste de prêtres, dont l'ésotérisme est soigneusement entretenu pour subjuguer les profanes ? Parfois, quand j'interviens sur un ordinateur et que je tape des lignes de code devant son propriétaire, j'ai l'impression qu'il ne me regarderait pas autrement si je tournais un moulin à prière en psalmodiant dans une langue gutturale. Bon, bref. Tout ça pour dire que quand on se retrouve avec d'autres informaticiennes et informaticiens, on est comme un magicien, un condret de prestidigitateur. On sait qu'on peut remiser ses tours de passe-passe s'ils ne feront pas illusion auprès des collègues qui connaissent tous les trucs et astuces pour impressionner le chaland. On ne sortira pas avec des arguments d'autorité, il va falloir discuter et convaincre.
Et du coup, les discussions ne sont pas faciles ?
Non, disons plutôt qu'elles sont longues, souvent, et un peu laborieuses parfois. En particulier lorsqu'il s'agit d'opérer un choix technique. Tout le charme du logiciel libre, c'est que les solutions sont nombreuses. Pour remplir une même fonction, il existe des logiciels très divers, basés sur des technologies différentes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Sans compter que quand on administre un système et qu'on veut qu'il soit stable et facile à maintenir, on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment sur un serveur. Donc, chaque personne qui participe au débat vient donc avec ses pratiques, son expérience, son angle d'approche et surtout ses détestations et ses marottes. Donc, on comprend facilement qu'avec des passionnés, le débat ne peut être que passionné. Du coup, au sein de l'April et ailleurs, je me suis pas souvent plongé dans l'arène du débat technique, ne me sentant pas la légitimité et la pugnacité suffisantes pour défendre telle ou telle position. Mais au fond, c'est plutôt reposant de se mettre en position d'observateur, et c'est aussi instructif, car certains apports dans le débat nous font découvrir des enjeux et des solutions techniques que l'on ne connaissait pas encore. En résumé, alors que dans les autres lieux où j'interviens, je suis un peu l'informaticien de service avec ce que ça signifie de responsabilité, au sein d'une association libriste, je suis en roue libre et je contribue là où je suis utile. Donc là, je prendrai comme exemple les sites web, puisque mes contributions militantes de l'April ou à Parinux, l'autre association libriste dont je fais partie, ont tourné autour de ce sujet. Il se trouve que j'utilise professionnellement le logiciel SPIP, un logiciel de gestion de contenu de site web, mais franchement, c'est parce que je connais que mes quelques expériences sur d'autres logiciels équivalents ne m'ont pas poussé à aller voir ailleurs. Je serais franchement bien en peine de construire un argumentaire démontrant qu'il faut utiliser cette solution et pas une autre. Je n'ai donc pas participé aux débats qui ont conduit au choix final du logiciel pour les nouveaux sites. Mais comme il s'est porté sur SPIP, aussi bien à l'April que chez Parinux, j'ai alors pu apporter ma contribution, qui aurait été d'ailleurs beaucoup plus réduite si le choix s'était porté sur un autre logiciel. Bon, en soi, l'April ne dit de faire pas d'autres associations et mouvements. On peut discuter longtemps, mais in fine, ce sont ceux qui prennent le problème à bras-le-corps qui remportent la décision. Le Yaka Faucon y est aussi présent qu'ailleurs. Je savais d'ailleurs partie du charme de toute aventure collective.
Super. Merci beaucoup, Vincent, pour une nouvelle superbe chronique qui m'aura beaucoup fait rire, là, notamment sur la magie du logiciel. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec l'informatique, c'est que c'est un côté magique, notamment pour des non-techniciens comme moi. Et c'est important d'avoir de la magie dans la vie. Sinon,
c'est vrai. Ouais.
Alors, on sait donc que tu es informaticien, libriste, ça c'est une évidence. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, maintenant qu'on a le temps de discuter aujourd'hui ?
Oui, avec plaisir. En fait, je me présente professionnellement comme concepteur codeur de logiciels libres. Je suis à mon compte. J'ai ma petite structure qui s'appelle Exemol, mais je suis tout seul. Et je travaille surtout avec un client qui est la Fondation Charlotte Palmeyer pour le progrès de l'homme. D'ailleurs, souvent, on m'associe à cette fondation, et bien évidemment, mais je n'en fais pas partie officiellement. Mais bon, comme je gère justement toute la partie magie, c'est-à-dire à la fois le système de mémoire interne, et puis dès qu'il y a un problème informatique, c'est moi qui m'y colle. Je suis très associé à la FPH, ce qui est le petit nom de la fondation Charles-Paul Meyer.
Oui, j'en reparlerai un peu plus tard, mais effectivement, il y a aussi une histoire un petit peu entre l'April et le local de cette fondation et la fondation. Oui. Alors, comment as-tu rencontré l'April ?
Alors, en fait, ça date d'il y a très longtemps, du milieu des années 2000. Et à l'époque, si je me posais la question de comment libérer mon logiciel, alors je dirais que maintenant, je ne poserai pas la question tellement il y a de ressources sur le web, mais au milieu des années 2000, c'était moins répandu. Je voyais pas trop comment procéder. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, comprendre les licences et tout. Et j'avais posé la question à quelqu'un, c'était Denis Pansu qui travaillait à la FING à l'époque, s'il connaissait des gens dans le monde du libre francophone, parce qu'il y avait aussi ça qui importait, s'il pourrait me donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il m'a fait rencontrer l'April. Et donc il m'a aidé à libérer mes logiciels, et ensuite je suis devenu adhérent de l'association.
D'accord. Donc tu étais libriste, ou tu commençais à devenir libriste, et c'est dans ce cas-là que tu as rencontré l'April, ou c'est au contact, et plutôt que d'être au contact de l'April, et tu es devenu libriste
C'est-à-dire que j'étais utilisateur de logiciels libres, et donc j'en profitais, donc j'avais une dette vis-à-vis du monde du logiciel libre, et donc se posait la question de libérer, mais j'étais pas encore finalement je ne savais pas quel était l'acte à faire pour devenir officiellement libriste. Ne serait-ce pour comprendre, maintenant on a tous les dépôts, toutes les forges de logiciels, où on a, en fait, c'est en un clic, que ce soit les plateformes comme Framagit ou la forge du Chapril ou d'autres choses, il y a toute cette habitude de transmettre son code sur un dépôt qui est vraiment entré dans les mœurs. En 2005, c'était beaucoup moins répandu. On avait moins l'habitude. J'utilisais pas encore un logiciel de gestion de suivi de version. Je pense que je devais faire mes sauvegardes de manière assez peu sophistiquée. Et à l'époque, d'ailleurs, l'April m'avait orienté vers la plateforme de l'Adulacte, et c'était une des rares plateformes francophones pour déposer du logiciel. Donc, au fond, je me faisais aussi une grande une grande impression. Enfin, j'ai l'impression que c'était un énorme palier de devenir libriste, alors qu'en fait, maintenant, en un clic, un choix de licence et c'est bon, quoi.
Alors, je précise que l'Adulacte, donc une association qui promeut le logiciel libre pour les collectivités territoriales, plus spécifiquement pour les collectivités, et effectivement elle offre des services techniques et notamment une plateforme. Tu as parlé de dépôt, de forge, c'est des plateformes techniques pour créer du logiciel libre à plusieurs collaborativement.
Oui, c'est tout un mécanisme qui permet de facilement transmettre son code, puisqu'il va en particulier, sa manière de sauvegarder, de le rendre public, de le rendre consultable, avec, ce qui est très important en informatique, un suivi de l'historique de toutes les modifications qu'on fait. Parce que, un peu quand on va voir l'historique de Wikipédia, où on voit tout l'historique d'une page, on dit, bah, il y a un telle personne à rentrer telle phrase à tel moment. Bah, pour ce du code informatique, c'est la même chose. On voit, une telle personne a fait cette modification. Donc, c'est très important pour le suivi. Et en plus, après, autour de cet outil-là, il y a beaucoup d'autres outils qui sont greffés, comme un suivi des demandes de nouvelles fonctions, des rapports de bugs ou des choses comme ça, ou tout un système de documentation qui sont des outils très utiles et rassemblés à un ancien endroit. Et ça permet de comprendre la vie d'un logiciel, quelle est sa feuille de route et des choses comme ça.
Alors pourquoi tu mides pour libre ? Parce que pourquoi c'est important pour toi ? Parce que j'ai l'impression que c'est pas seulement une question technique, du coup.
Non, alors il y avait comme j'ai évoqué, il y avait au début, je crois qu'il y a un peu une dette à payer, parce qu'au fond, ce que je suis capable de faire, c'est grâce à tous les logiciels libres existants. Si je fais la somme de toutes les licences qu'il faudrait payer aussi pour mon travail, pour ne serait-ce que pour pouvoir travailler, ben je crois que ce serait un budget très conséquent. Alors comme j'ai pas les moyens de faire des dons à tous les projets libres que j'utilise malheureusement, mais déjà en libérant mon code, je paye une partie de ma dette à tout ce travail qui me permet de voilà d'utiliser au quotidien. Après, l'autre aspect très important pour moi dans le libre, c'est la pérennité. Ça, c'est une question, un enjeu. Au fond, j'ai envie de dire, j'ai la chance de pouvoir faire du libre aussi parce que je suis payé pour. Dans le sens, au début, moi, j'ai commencé, je devais faire l'outil interne de la Fondation Charles-Paul Meyer. Et c'est après, en discutant, on s'est convaincu qu'il fallait libérer le code. Donc il n'y a pas eu de problème pour les convaincre en termes de valeurs de partage, hein, on est bien sûr c'est des valeurs qui sont communes, mais il y a aussi cette idée de pérennité, de dire bon en le diffusant justement sur les forges, sur les dépôts, c'est comme ça qu'on garantit que le code sera réutilisable et sera pérenne. Maintenant, j'ai vu, moi j'avais déposé sur Framagit, je suis allé sur le site Software Heritage, et hop, j'ai vu que mon code était là, ça fait plaisir, on dit c'est quand même une garantie en plus, hein, c'est tout bêtement de sauvegarde aussi de tout son travail d'une vie d'informaticien, c'est important qu'il soit sauvegardé, et puis, comme on dit, si un jour j'ai une crise mystico-écologique et je vais dans le Grand Nord cohabiter avec des grizzlies, au moins, mon client aura accès à mon code et pourra continuer mon travail si jamais un coup de patte malencontreux du grizzly joueur faisait que j'étais plus en capacité.
Alors, je vais pas être une blague privée, mais c'est vrai qu'on parle de bus factor parfois, il y a aussi le grizzly factor.
Oui, je préfère parce que bus factor ça me gêne, parce qu'à Paris j'ai jamais eu de problème à vélo avec le conducteur de bus, ils sont charmants, donc un grizzly joueur, ça
je précise juste, ouais, le bus factor c'est cette idée que il peut y avoir moins il y a de personnes sur qui repose un projet, plus le projet est fragilisé, si une de ces personnes malheureusement
fait écraser par un bus.
Voilà, prend un grizzly. Bref.
Ouais, voilà.
Et du coup, ça fait écho avec une remarque effectivement de Fred sur le salon Libre à vous, parce que tu parlais de SPIP et tu disais, puisque c'était SPIP, j'ai pu contribuer à l'April, mais aussi à l'inverse, c'est que du coup, le choix de SPIP s'est aussi fait parce qu'il y avait des contributeurs des contributeurs à l'occasion bénévoles. Vous étiez plusieurs, donc on peut aussi remercier Jean, Antoine et donc Vincent qui est avec moi, qui ont contribué à la mise en place du site Libre à vous. Et c'est parce que nous avions accès à vos compétences, oui, et que vous étiez prêts à les partager avec nous qu'on a fait ce choix. Donc voilà, l'humain aussi fait partie des décisions ce sens. Je voulais te poser rapidement une question, peut-être, enfin rapidement, prends le temps qu'il faut, mais donc tu as contribué à la mise en place de ce site libreavoue.org, qui moi je trouve une superbe réussite. Graphiquement, je le trouve très beau, et ça c'est grâce à Antoine Bardelli. Et en tant qu'utilisateur non technicien qui est amené à manipuler, on va dire, de l'information pour mettre en page les sites, je trouve je trouve le site très facile à utiliser. Bon, ça, c'est aussi grâce à SPIP. Donc, comment tu as approché ? Parce que c'était un sacré chantier. Il fallait migrer d'un site, de l'ancien site, enfin du site de l'April, où nous éditions et nous publions des pages sur les émissions, pour toutes les concentrer sur un nouveau site. Alors, je ne vais pas te demander de faire toute la genèse, mais comment tu abordes un chantier de ce type ?
Oui, alors c'est vrai que sur le site, moi j'ai pas sur la partie SPIP, c'est surtout Jean qui a travaillé. Moi j'ai fait deux choses que j'aime beaucoup par ailleurs et sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de partir de l'existant et de voir ce qui était récupérable de manière automatique de l'existant. J'avais fait une chronique sur les copier-coller à une époque. Comment, quand on migre d'un nouveau site à un autre, on peut s'éviter un certain nombre de copier-coller, parce que parfois c'est la seule solution, mais on va essayer de faire. Donc là, moi j'ai fait deux choses. D'une part, effectivement, c'est d'essayer de récupérer les pages, le contenu des pages existantes sur le style de l'April, pour les intégrer dans SPIP, ce qui a fait qu'en fait l'archive des émissions n'a pas été perdue. On aurait pu aussi dire bon, on fait un nouveau site, il commence à l'émission 50 et puis le reste on le laisse traîner quelque part sur l'ancien site. On l'a dit, on reprend à partir même de l'émission 1. Donc là, c'est d'écrire, c'est des petits scripts qui vont voir les pages et qui essayent d'extraire des pages l'information qui nous intéresse de ça. Et la deuxième partie, c'est dans tout le processus de production de comprendre. Il y avait aussi comprendre le processus de fabrication d'une page d'un site à partir du fichier de podcast. Comment, parce que le fichier de podcast, il est découpé pour avoir des podcasts différents suivant le... Et là, il y a une procédure avec un fichier JSON qui partage. Et là, c'était, comme il y avait ce travail fait, de pouvoir le récupérer de manière automatique dans SPIP pour là aussi éviter la double saisie et pas avoir à retaper à chaque fois, puisque je dis ça parce que sur la page d'une site d'émission, il y a l'émission principale et puis il y a les chapitres. Et c'est ce chapitrage qu'il fallait récupérer pour pouvoir le réutiliser et le valoriser aussi dans le lecteur, d'ailleurs le lecteur Podlove où il y a ce chapitrage. Et donc, comme il était déjà fait, dans le cas du découpage du fichier de podcast, il fallait faire en sorte qu'il soit que ce travail soit réutilisé automatiquement.
Ok. Bon, bah, en tout cas, bravo, parce que c'était un gros chantier et le résultat est super. Avant qu'on se quitte, alors tu m'as dit qu'effectivement, donc on a évoqué avec Isa les journées du logiciel libre, et je crois que toi aussi tu as une actualité par rapport à cet événement.
Oui, bah, juste dire, enfin, moi j'y vais aussi, mais je serai la journée de samedi. Alors moi j'ai je fais ma pub.
Ah, vas-y.
Voilà. Je participe à une conférence, je crois que c'est à 14h, c'est avec Ritimo, et c'est sur la question de la mémoire militante. C'est un peu d'ailleurs lié aux travaux que j'aime bien de comment on récupère des données, on essaye de les conserver. Y a trop de sites qui disparaissent du jour au lendemain parce que c'est plus maintenu, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on perd aussi de la mémoire dans tous les mouvements sociaux là-dessus. Et donc ça c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps avec Ritimo, et là les journées du logiciel libre vont être l'occasion de discuter de ça. Ouais, et puis j'ai vu qu'aussi Isabella avait une conférence sur la radio libre à vous. Alors j'irai je tiendrai compagnie. Alors je sais pas si à la fin il y aura une séance d'autographe pour
on peut l'envisager,
c'est vrai. Je peux faire tout de suite autographe.
Voilà.
Ok, super. Et non, un sujet très intéressant, c'est que quand on défend la libre circulation des savoirs, des connaissances, leur mémoire est aussi quelque chose d'essentiel. Ouais. Parce que moi, je serais pas à Lyon, mais si c'est disponible, je pense qu'on pourra peut-être suivre à distance. Faudra que je me renseigne. Je sais pas si tu le sais.
Oui. Alors à distance, je sais pas. En tout cas, ce sera enregistré.
Ce sera enregistré.
Alors à distance, on va voir. Peut-être maintenant avec toutes les pratiques, effectivement liées au confinement, c'est aura devenu automatique.
Oui, c'est sûr.
De mettre en place ce type d'outils.
En tout cas, merci beaucoup, Vincent, pour ce temps d'échange, pour ta chronique. Et puis, je te dis au mois prochain.
Oui,
pour
tout à fait.
Prochaine chronique. Super. Bah, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors d'habitude, nous en faisons que trois, mais là, pour conclure cette série d'échanges au cœur de Libre à vous, au cœur de l'April et de Libre à vous, je vous propose voilà, de faire une dernière pause. Et pour ce dernier coup de cœur, je vous propose d'écouter un morceau qui met la pêche, qui donne envie de danser sur des rythmes endiablés et un peu fous, et qui a voilà, un petit grain de folie aussi. Nous allons écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Venons d'écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Et nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors dimanche 27 mars, lendemain de l'Assemblée Générale de l'April, l'association organise un April Camp dans le 11e arrondissement de Paris, dans la Fondation pour le Progrès de l'Homme, mentionnée par Vincent. L'idée d'un April Camp est de se réunir entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets, se rencontrer. Les projets peuvent être de nature technique, des outils de communication, etc. Tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. On en a parlé, le 2 et 3 avril 2022 à Lyon auront lieu les journées du logiciel libre, un des plus importants événements autour du logiciel libre en France. L'April y tiendra donc un stand où vous pourrez nous retrouver et vous pourrez entendre une conférence de ma collègue Isabella, promouvoir le libre à la radio, je vous laisse deviner le thème, ainsi qu'une conférence sur le logiciel Beneva Libre, un autre projet en partie porté par Isa. Et enfin une table ronde se défendant le monde numérique à laquelle participeront deux autres bénévoles de l'April. Et vous pourrez retrouver Vincent Calame sur la mémoire informationnelle. C'est peut-être pas le bon terme, mais il vient de nous en parler. Un concert aussi pour les 10 ans de la journée de création musicale, création partagée sous licence libre CC BY SA. Que vous retrouvez à l'Escapade, espace Le Gothic, dans le 35 à Passé. Ce sera le samedi 2 avril à 20h30. De manière générale, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture du libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laure-Élise Deniel, Marie-Odile Morandi, Isabella Vanni, notamment à la manette de la régie aujourd'hui, et enfin Vincent Calame. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Deniel Girondin, Languin, bénévole à l'April. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur notre site libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 29 mars 2022, à 15h30 toujours. Notre sujet principal portera sur les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. Une émission animée par mon collègue Frédéric Couchet. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 29 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.